Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saint-Ferréol 94.2, l'émission qui compte. Avec Sophie au micro, Pierre à la technique, le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Chères auditrices, chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte, je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette émission de novembre, malgré le confinement. Alors, je ne vous parle pas depuis les studios de la radio, mais depuis chez moi. Bon, il y a un petit avantage à cela par rapport au mois dernier, c'est que je ne suis pas obligée de porter un masque, ce qui, pour raconter, n'est pas des plus agréables. Par ma fenêtre, je vois les dernières feuilles dorées des peupliers, puis un petit oiseau qui sautille sur le balcon. Il a le ventre rouge. L'oiseau, et en ces temps de confinement, on a envie de parler de la liberté, et s'il y a un symbole de la liberté, c'est bien l'oiseau. Choisissez la liberté et jusqu'au bout, conservez-la. C'est une phrase de Daniel Cordier que j'ai entendue ce matin à la radio. Alors, la liberté et les oiseaux, on les croit libres, on les voit, quand on les voit voler dans le ciel, mais... Et après, il y en a pour qui la vie est quand même bien difficile, ce qui les pousse à partir vers des pays chauds. Et parler des oiseaux, c'est un sujet bien vaste, surtout dans les contes, parce que si l'on pense à toutes les variétés d'oiseaux, depuis les oies sauvages, les petits moineaux, les grands aigles qui planent dans le ciel... Il y aurait tant les coqs aussi, les poules et tous les oiseaux domestiques. Il y aurait tant de contes et tant d'histoires possibles. Alors pour commencer, eh bien, je vais vous dire qu'il y a très longtemps, les hommes sur la terre ne possédaient pas le feu. Et selon cette légende, ce sont les oiseaux qui l'ont apporté sur la terre. Mais pas n'importe quels oiseaux. Ils ont été obligés de s'y mettre à trois. Le premier qui est allé jusque dans le ciel pour prendre le feu entre ses ailes, c'est le roi Clay. Et on dit que le feu était tellement brûlant que ses ailes ont rétréci et sont devenues minuscules. Puis c'est le rouge-gorge qui, lui, a saisi le feu contre sa poitrine. Et depuis, les plumes de son jabot sont devenues toutes rouges. Enfin, c'est l'alouette qui, elle, a réussi à apporter le feu jusque sur la terre. On dit qu'une fois sa mission accomplie, elle était tellement heureuse qu'elle s'est élevée dans le ciel en volant et en chantant, et que depuis ce jour, l'alouette célèbre le matin par son chant si beau. Bon. Eh bien, voici nos trois oiseaux, le roi Clay, le rouge-gorge et l'alouette. Avec ces trois-là, nous aurons déjà bien à faire. Le roi Clay, on dit que c'est un des plus petits oiseaux d'Europe. Il ne pèse que 5 grammes. Il a un peu le dos vert olive, avec 3 bandes sur la tête, une bande jaune ou orange qui est entourée de 2 bandes noires. C'est un oiseau très petit, mais très actif et à la voix stridente. Il y a longtemps, l'aigle, qui est le prince des oiseaux, le roi même du ciel, regardait avec commisération ce petit, tout petit roi Clay et lui disait « Oh, pauvre petit, toi tu es si minuscule que tu as beau battre de tes petites ailes, tu ne t'élèves que de quelques mètres ou même centimètres, alors que moi j'ai juste à déplier mes ailes et déjà je suis haut dans le ciel. » « Mais garde ta compassion pour toi, » dit le roi Clay. « Eh oui, je suis petit, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas monter dans le ciel, même plus haut que toi. Oh, »« Je voudrais bien avoir ça, » dit l'aigle. « Eh bien, parions si tu veux. »« Que me donneras-tu si je gagne ?»« Si tu gagnes, eh ben, je te donnerai mon corps à dévorer. »« Et si tu perds, tu me jures de ne jamais faire de mal, ni à ma famille, ni à personne de mon espèce. » « Entendu, » a dit l'aigle. « Es-tu prêt ?» Alors le roi Clay s'est faufilé sur la tête de l'aigle. Mais il était tellement petit, tellement léger, que bien sûr, le grand oiseau ne s'en est pas rendu compte. « Je suis prêt, allons-y » L'aigle a déplié ses ailes et il a volé vers le ciel, haut dans le ciel. Puis 20 fois par heure, il se criait « Et où es-tu, roi Tlet? Où es-tu ?» Et le roi Tlet lui répondait « Je suis au-dessus de toi, je suis au-dessus de toi !» Et l'aigle montait dans le ciel « Et roi Tlet, où es-tu? Je suis au-dessus de toi, je suis au-dessus de toi !» Et cela a duré pendant des heures et l'aigle se fatiguait. Le roi Tlet, lui, il ne se fatiguait pas du tout, bien installé qu'il était sur la tête de l'aigle. Et finalement, épuisé, le grand oiseau a reconnu sa défaite. Et tout confus, il est redescendu sur la terre, emportant le petit malin qui était toujours perché là-haut, pas trop fatigué en ce qui le concerne. Eh oui, quand on n'est pas très grand ni très fort, il faut être malin. Une deuxième histoire qui concerne ce petit malin qu'est le roi Tlet. Voilà qu'un printemps, un homme a attrapé dans ses pièges un roi Tlet. Bien maigre prise en vérité. Il s'apprêtait à l'étouffer dans son poing quand l'oiseau lui a dit « Attends, attends, qu'est-ce que tu vas gagner à me tuer ? Je suis si petit, je ne gagnerai guère ta panse. Rends-moi donc ma liberté et en échange, je vais te faire un vrai cadeau. Un cadeau qui te servira à ta vie durant. Je vais te révéler 3 vérités. Je te dirai la première quand je serai encore dans ta main. Puis, j'irai me percher là sur la branche du chêne et je te dirai la deuxième. Et ensuite, je m'envolerai dans le ciel et là, je te donnerai la troisième. » L'homme a hésité un peu, mais c'est vrai que le roi Tlet était si petit. Il a haussé les épaules, il a accepté, il a ouvert sa main. L'oiseau y est resté perché quelques instants, le temps de claironner de sa voix perçante. « Première vérité. Ce qui est perdu sans retour ne regrette pas de l'avoir perdu. » L'homme a hoché la tête, le roi Tlet s'est envolé, il est allé se percher sur la branche du chêne. Deuxième vérité, ce qui est absurde ne va pas follement le croire. Puis l'oiseau a quitté la branche, elle s'est envolée, il a tourné au-dessus de la tête de l'homme et il a lancé. Ha! Sache que dans mon jabot, j'ai un trésor, une perle qui est plus grosse qu'un 9 doigts, plus grosse que ton poing. L'homme a entendu ça et est resté stupéfait. Il a pensé, ce trésor qu'il avait là dans sa main et qu'il avait laissé échapper, et de dépit, il en est devenu jaune, jaune comme un coin. Il a cherché une pierre pour essayer d'atteindre l'oiseau là-haut, mais celui-ci a monté encore un peu plus haut et il a ricané. « Mais pauvre homme, comme tu es sot! À quoi ça sert que je te donne ces vérités? Qu'est-ce que tu fais de mes conseils? Comment pourrais-je avoir dans mon jabot une perle 3 fois plus grosse que mon corps? Et toi, tu le crois? Mais tu es tout au regret de m'avoir perdu. Moi, c'est bien la peine que je te donne des vérités. Avant que la troisième, je ne te la donnerai pas. Elle te servirait à rien. » Et le roi Tlet a disparu, laissant l'homme tout bêta qu'il suivait des yeux. Le roi Tlet et puis le rossignol. Le rossignol, célèbre pour son chant nocturne qui enchante les bois et tous ceux qui ont la chance de l'écouter, bon, il chante aussi le jour. C'est le magicien qui fait oublier les dangers du jour, selon le dictionnaire des symboles. Car s'il chante la nuit, il chante aussi le jour. Il y a plusieurs légendes qui essayent d'expliquer pourquoi le rossignol chante la nuit. Et en voici une. C'était au premier temps du monde. Les rares animaux qui vivaient déjà sur la terre avaient tous un seul œil. Parmi eux, il y avait le rossignol, avec son plumage terne, et puis l'orvet, un inoffensif petit serpent à la queue cassante comme du verre. L'orvet qui aimait se blottir dans les trous des vieux murs et dans les endroits un peu humides. Et voilà que le rossignol est invité aux noces du papillon. Il voudrait bien briller à la fête. Bon, certes, il a une voix qui séduit tous ceux qui l'écoutent, mais son habit est très commun, très ordinaire et terne. Alors il va trouver son ami Lorvay et lui dit « Ah, cher ami, bientôt je suis de noces, il y aura une brillante assemblée, tu sais, il y aura le merle avec son habit noir brillant, il y aura le bouvreuil, son jabot écarlate, le chardonneret avec ses ailes pailletées, et moi je voudrais bien être à la hauteur, tu comprends ?» Oh, Lorvay lui dit « Mais mon ami, je ne me fais pas de soucis pour toi. Avec ton chant, tu vas enchanter l'assemblée tout entière. » « Oui, oui, » dit le rossignol, « mais tu sais, il y a certains invités peut-être qui n'aiment pas la musique. Et puis au bal, écoute, voilà ce que je te demande. Prête-moi ton œil. Et comme ça, je serai le seul à avoir deux yeux, ça fera sensation. Et je te le rendrai après, aussitôt la fête terminée, demain matin. » Lorvay, qui avait bon cœur, a accepté. Il a prêté son œil au rossignol. Le rossignol s'est rendu aux noces du papillon et là, il a été tellement admiré par tout le monde que, eh bien, il ne s'est jamais décidé après à rendre l'œil emprunté. Et le pauvre Lorvay, victime de sa bonté, s'est retrouvé aveugle. Et depuis cette époque reculée, il voue une haine tenace au rossignol. Et il ne pense qu'à récupérer le bien précieux qui lui a été si malhonnêtement dérobé. Le rossignol, lui, eh bien, il ne dort jamais parce qu'il a trop peur que, profitant de son sommeil, on lui vole son deuxième œil. Pour rester éveillé, eh bien, il chante. Il chante toute la nuit. Et il évite ainsi de s'endormir. Voici maintenant le conte, un des contes le plus célèbre qui parle du rossignol. C'est un conte d'Andersen qui s'appelle « Rossignol de l'Empereur de Chine ». Je ne raconte pas souvent des contes d'Andersen, qui est né en 1805 sur l'île de Fyoni au Danemark. Il a une enfance extrêmement misérable, sa mère est alcoolique et c'est le souffre-douleur de ses camarades. À 14 ans, il part à Copenhague, il est bien décidé à faire du théâtre et à devenir célèbre. Mais la gloire, il ne va pas l'obtenir par ses pièces de théâtre, il l'obtiendra 20 ans plus tard grâce à ses contes pour les enfants. Ce ne sont pas des contes à proprement parler, d'origine uniquement populaire comme les contes de Grimm. Ce sont plutôt des histoires littéraires composées par la plume d'Andersen, mais qui est lui-même nourrie de contes traditionnels. Ces histoires sont souvent un peu tristes et elles disent le malheur d'êtres qui sont inadaptés, comme le vilain petit canard ou la petite sirène. Mais ils apportent aussi le rêve dans la réalité. Le rossignol de l'empereur de Chine. Il y a bien longtemps régnait sur la Chine un empereur fier et puissant. Il vivait dans un palais extraordinaire, un palais qui était rempli de merveilles, un palais qui était fait de la porcelaine la plus fine. Dans le jardin, il poussait les fleurs les plus rares et on accrochait des clochettes d'argent, ce qui fait qu'au moindre souffle de vent, elles tintaient légèrement dans l'air du matin. Le jardin était si grand que le jardinier lui-même avait du mal à en voir le bout. Le jardin s'étendait jusqu'à la forêt, pleine de grands arbres et de lacs profonds. La forêt elle-même descendait jusqu'à la mer. Et il y avait de grandes barques qui glissaient et qui voguaient sous les branches. Dans les arbres au bord de l'eau vivait un rossignol. Quand sa voix s'élevait dans la nuit, les pêcheurs arrêtaient leur travail pour l'écouter, avaient le temps du chant et ils oubliaient tous leurs soucis. De tous les coins du monde, des étrangers venaient pour admirer la ville impériale, ses jardins fabuleux. Mais lorsqu'ils entendaient, par chance, dans la nuit, le chant de l'oiseau, tous s'écriaient « Ah, mais ce chant-là, mais c'est ça qui est le plus beau de tout !» Et rentrer chez eux, les lettrés écrivaient des livres, les poètes composaient des poèmes où ils vantaient la magnificence de la ville, la beauté des jardins, mais tous, ils gardaient leurs éloges les plus grands pour l'oiseau, le petit chanteur de la forêt. Et ces livres, ces écrits se sont répandus de par le monde et quelques-uns sont arrivés aux oreilles de l'empereur. Assis sur son trône d'or, il écoutait le lecteur qui vantait les mérites et les beautés de son palais, de son jardin. Mais lorsque le lecteur a énoncé « La plus belle perle du royaume, c'est le rossignol, au chant merveilleux. » L'empereur a fait arrêter la lecture. Il a dit « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce rossignol? Je ne le connais pas. » Le grand chambellan aussitôt est arrivé et l'empereur lui a dit « Mais ce rossignol, chambellan, je n'avais jamais entendu parler de ce chanteur et que le rossignol n'avait jamais été présenté à la cour. » « Eh bien, qu'on me l'amène ce soir, il chantera pour moi. Le monde entier sait que je possède une merveille et moi, je ne sais même pas qui il est. Et trouvez-le-moi, sinon je vous fais piétiner l'estomac après dîner. » Le chambellan, les courtisans qui n'avaient pas du tout envie de se faire piétiner l'estomac sont partis en quête. Ils ont grimpé et descendu tous les étages du palais et à tous ceux qu'ils croisaient, ils disaient « Mais savez-vous, le rossignol, et qu'est-ce que c'est que le rossignol ?» Et personne ne savait, le monde entier connaissait ce rossignol, mais à la cour du roi de Chine, personne ne savait qui il était. Enfin, presque personne. Parce que finalement, c'est une pauvre petite servante de cuisine qui a dit « Ah mais oui, mais moi je le connais ce rossignol. C'est vrai qu'il a une voix merveilleuse. Ma mère est malade et elle habite une petite maison au bord de la mer et tous les soirs j'ai la permission de lui porter les restes du repas. Et au retour, je suis tellement fatiguée, souvent je m'arrête un petit moment pour me reposer. Et là, j'ai la chance de l'entendre chanter dans les branches. Il me fait pleurer tant c'est beau. Ah, chère petite, a dit le chambellan, mais tu auras un bon emploi à la cuisine, je te le promets, et même la permission, une fois, de voir dîner l'empereur si tu nous conduis tout de suite à ce rossignol. Allez, voilà, en route, la moitié de la cour qui suivait la fille de cuisine. Comme ils étaient en chemin, une vache s'est mise à beugler. Ah, nous le tenons, mais. « Mais qu'est-ce qu'il a une voix puissante pour un petit oiseau ?» a dit un courtisan. « C'est pas le rossignol, a dit la fille de cuisine, c'est juste une vache qui beugle. » Ouais, ils ont continué, puis un peu plus loin, ce sont des grenouilles qui coassaient au bord de la mare. « Oh, ravissant !» s'est crié le meunier de la cour. « On dirait des clochettes. »« Mais c'est pas le rossignol, ce sont des grenouilles. »« Non, il est plus loin, continuons. » Ils sont arrivés au bord de la mer. Là, tenez, regardez là, sur la branche, c'est lui. Comment ce petit oiseau, si quelconque, au plumage terne, c'est lui? Mais est-ce que c'est notre présence à tous qui l'a intimidé, qui lui a fait perdre ses couleurs? A demandé le chambellan. La fille de cuisine, elle s'est tournée vers l'oiseau, elle lui a dit « Écoute, petit rossignol, sa majesté l'empereur voudrait que tu chantes pour lui. » « Oh, ben volontiers, a dit le petit oiseau. » Alors il s'est mis à chanter. Là, tous ces gens de cour l'ont écouté, et c'est vrai qu'ils n'avaient jamais rien entendu de pareil. Quand le rossignol s'est arrêté, chambellan lui a dit « Écoute, charmant rossignol, j'ai l'honneur de t'inviter ce soir à la cour. Tu chanteras pour sa majesté l'empereur. » Oh, dit le rossignol, « Moi je veux bien, mais vous savez, mes chants sont beaucoup plus beaux dans la forêt, mais je viendrai. » Et sans se faire prier, il a suivi tous ces beaux messieurs et ces belles dames jusqu'au palais impérial. Le soir, le palais était illuminé de 1000 lampes d'or. Et au centre de la salle d'apparat, il y avait le trône de l'empereur et en face, un perchoir d'or. Toute la cour était là, magnifiquement habillée. Et la petite servante, elle avait reçu l'autorisation de rester derrière la porte. Et on l'avait nommé cuisinière en chef. L'empereur sur son trône attendait. Toute la cour bruissait et murmurait autour de lui. Le petit oiseau est arrivé et s'est perché sur le perchoir d'or. Comment? C'est lui, le rossignol? Mais vous croyez? comme il est mal habillé. Puis, l'empereur a fait à l'oiseau un gracieux signe de tête et le rossignol s'est mis à chanter. Des larmes ont coulé sur le visage du souverain. Alors le chant de l'oiseau s'est fait encore plus doux. Elle est allée droit au cœur de tous. Quand le petit oiseau s'est arrêté, l'empereur a donné ordre qu'on le décore de la plus haute distinction du royaume, la pantoufle d'or. Mais le rossignol a dit, « Majesté, ce n'est pas la peine. Le plus beau présent que vous vouliez me faire, que vous pouviez me faire, eh bien, ce sont les larmes dont vous avez honoré mon chant. » Ce jour-là, depuis ce jour-là, le rossignol a eu sa place à la cour, il a eu une cage en or, et la permission de sortir deux fois par jour, et puis une fois par nuit. Il avait 12 serviteurs qui le tenaient chacun par un fil de soie relié à ses pattes. Ces promenades ne convenaient guère à l'oiseau de la forêt, et alors s'il chantait maintenant, c'était plus pour exprimer sa tristesse que sa joie. Quelques jours, quelques semaines ont passé et toute la ville parlait du rossignol. Le maître de chapelle a eu l'autorisation de le faire chanter pour le peuple. On ne parlait que du rossignol. Jusqu'au jour où un paquet est arrivé pour l'empereur. C'était un cadeau de l'empereur du Japon. Soigneusement emballé dans une boîte, il y avait un rossignol. Mais un rossignol artificiel. Un rossignol mécanique, qui avait la taille du vrai rossignol, mais un habit somptueux couvert de diamants et de pierres précieuses. Dès qu'on remontait le mécanisme, le rossignol se mettait à chanter. Il chantait à des morceaux que chantait le rossignol vivant. Et en même temps, il remuait sa queue d'or et d'argent. Oh, c'était magnifique à voir. Autour de son cou, il avait un petit collier où était gravé « Je suis le rossignol de l'empereur du Japon ». Et je ne vaux pas celui de l'empereur de Chine. Oh, ravissant, charmant, délicieux, qu'on le fasse chanter. Et on a fait chanter le rossignol artificiel. Et puis l'empereur a dit, faisons-leur faire un duo. Alors. Mais ça n'allait pas. Le vrai rossignol n'était pas prêt à se plier à ce que chantait l'oiseau mécanique. Et l'oiseau mécanique, lui, il n'avait qu'une seule chanson. Il ne pouvait pas suivre l'oiseau des bois. Eh bien, alors on a fait chanter le rossignol artificiel, il était quand même beaucoup plus joli à voir. Puis, même s'il ne chantait qu'une seule mélodie, cette mélodie était si complexe qu'avant de la retenir et de pouvoir la chanter avec lui, il fallait l'entendre bien des fois. L'empereur écoutait, et c'est vrai qu'il était ravissant à voir cet oiseau, délicieux à écouter, mais les larmes ne sont pas venues aux yeux du souverain. Il s'est tourné vers le perchoir d'or pour faire chanter son vrai rossignol. Mais le petit oiseau des bois en avait profité, personne ne faisait attention à lui. Il s'était envolé par la fenêtre ouverte et la terre tournée dans sa forêt. « Oh, quel ingrat !» dit les courtisans, « mais il est parti, il s'est enfui, mais vraiment c'est incroyable. » Mais par bonheur, nous avons conservé le meilleur des deux. Et on a fait chanter encore et encore l'oiseau mécanique. Le soir, on l'installait sur un coussin à la gauche du lit du roi. C'était l'endroit le plus honorifique parce que la gauche, c'était le côté du cœur. Autour de l'oiseau mécanique, on installait toutes ses décorations et tous les présents qu'il avait reçus. Et le soir, pour s'endormir, l'empereur faisait remonter le mécanisme et il écoutait encore et encore la mélodie de son rossignol. Mais voilà qu'une nuit, pendant que l'automate chantait, le son s'est mis à la musique s'est arrêtée. L'empereur a fait appeler son médecin, le médecin n'y pouvait pas grand-chose, alors il a fait appeler un serrurier. Le serrurier a pris l'oiseau, il l'a démonté, il l'a secoué, il l'a regardé et il a dit qu'on ne pouvait rien faire parce que les rouages étaient usés. Il pouvait juste le rafistoler, mais ce serait très fragile. Et changer les rouages risquait de tout dérégler et l'oiseau ne pourrait plus chanter. Ça a été la consternation générale. L'empereur a ordonné que l'oiseau mécanique ne chanterait plus qu'une fois par an, le jour de son anniversaire. Puis le temps a passé et on a oublié complètement ces histoires de rossignol. On est passé à autre chose et 5 années se sont écoulées. Alors l'empereur est tombé malade. Les médecins l'ont jugé perdu. Un nouvel empereur a été nommé. Tous les courtisans s'empressaient autour du nouvel empereur pour essayer de rentrer dans ses bonnes grâces. Et l'ancien gisait dans son lit, abandonné de tous. On avait juste disposé des tapis et des coussins sur tous les couloirs pour ne pas faire de bruit en marchant. Le palais était complètement silencieux. L'empereur était dans sa chambre et il pouvait à peine respirer. Il sentait comme un poids très lourd sur sa poitrine. Quand il a ouvert les yeux, il a vu la mort. La mort qui lui avait pris sa couronne et qui d'une main tenait son sceptre d'or et de l'autre main son étendard royal. L'empereur a essayé de tendre la main pour attraper son oiseau mécanique, mais il n'avait pas la force de le remonter et la mort pesait de plus en plus lourd sur sa poitrine. Dans ce silence assourdissant, soudain, un chant délicieux a retenti par la fenêtre. C'était le petit rossignol. Le petit rossignol qui avait entendu dire que l'empereur était au plus mal et il venait pour le réconforter. En entendant ce chant si beau, la mort s'est levée, l'empereur a senti l'air qui revenait dans sa poitrine, les couleurs sont revenues sur ses joues. La mort s'est approchée de la fenêtre. Quand le rossignol s'est arrêté, elle lui a dit « Mais chante encore, rossignol !»« Oui, je vais chanter, mais alors donne-moi la couronne, le sceptre et l'étendard du roi. » La mort lui a donné et lui a dit « Je t'en prie. » Et le rossignol a chanté. Il a chanté le tranquille cimetière où poussent les roses blanches. Il a chanté l'herbe arrosée des larmes des humains, les parfums des cyprès. Et la mort elle-même a senti les larmes qui lui montaient aux yeux. Le rossignol a chanté jusqu'à ce que la mort accepte de lui donner en échange de ses chants la vie de l'empereur. Puis elle est partie par la fenêtre sous la forme d'une brume blanche et glacée. Merci. Merci, mon ami, a dit l'empereur. Tu m'as sauvé la vie. Qu'est-ce que je peux te donner en échange? Oh, roi, c'est déjà fait. Tu m'as donné tes larmes le premier jour où j'ai chanté pour toi. Et cela, ça vaut tous les chants du monde. Mais repose-toi, je vais chanter encore. Alors l'empereur a fermé les yeux. Et le rossignol a chanté. Et l'empereur s'est endormi. Et il a bien dormi. Au lever du soleil, quand il a ouvert les yeux, eh bien, il était guéri. Le rossignol a battu des ailes et il s'est envolé. L'empereur l'a suivi des yeux. Et lorsqu'il s'est levé, eh bien, tous les courtisans ont été bien surpris. Le rossignol est revenu, de temps en temps, chanter pour l'empereur, mais pour l'empereur lui seul. Et c'est ainsi que se termine cette histoire.
Thank you.
Lydia La Vague pour notre pause musicale. La troisième, l'alouette, l'alouette, gentille alouette. Veux-tu donc partir? Le jour n'est pas proche encore. C'était le rossignol et non l'alouette dont la voix perçait ton oreille craintive. Toutes les nuits, il chante sur le grenadier là-bas. Crois-moi, amour, c'était le rossignol. Voilà ce que dit Juliette à Roméo quand elle veut le persuader que ce moment de partir n'est pas encore venu. Le rossignol, c'est le chanteur de la nuit. L'alouette, c'est la messagère de l'aurore. C'est aussi un petit oiseau, un peu plus grande qu'un moineau. Elle a un pelage brun clair, et rayé de noir et un ventre blanc. L'alouette a une particularité, c'est qu'elle chante en volant. Elle peut rester un quart d'heure en l'air, en battant des ailes, volant sur place et en chantant sans s'arrêter. Et de ce fait, elle est depuis l'Antiquité considérée comme une médiatrice entre le ciel et la terre. Bachelard, le philosophe, lui consacre une page entière. Il écrit « L'alouette est un corpuscule invisible qu'accompagne une onde de joie ». Voici notre dernier conte de cette émission qui est dédié à l'alouette. Cette femme-là, cette étrangère, elle était arrivée au village un jour avec son bébé dans les bras. Le père, il n'avait fait que passer. Il avait laissé la mère toute seule, le ventre aussi gros que le cœur. Elle avait ouvert les volets de la maison de l'autre côté du pont, une maison abandonnée depuis longtemps. Elle s'était installée là, et elle avait lavé, blanchi, et vite et bien pour tous les gens du village. Elle avait fait sa place et peu à peu, on l'avait acceptée. Et quand une naissance était attendue, eh bien, c'est elle qu'on appelait pour laver et s'occuper du bébé. Son bébé, à elle, il s'appelait Vrège. Moi, de bébé, il était devenu un petit garçon aux joues rondes, aux yeux noirs, aux cheveux brillants et... Un petit garçon si joyeux, si plein de vie que personne ne pouvait lui faire grise mine. Et de petit garçon, il est devenu garçon et puis jeune homme. Un jeune homme très vif et pas manchot, il savait tout faire. Il savait sculpter des sifflets, fabriquer des manches de cerf. Il savait tout réparer, alors il manquait pas d'ouvrage. Mais toujours joyeux, toujours de bonne humeur, sifflotant, il rapportait l'argent à sa mère et allait regarder la rivière couler et faire des ricochets. Avec sa mère, ils s'aimaient ces deux-là, mais c'était pas des causants. Alors les dialogues étaient rares, mais l'amour y passait autrement, dans les regards. Voilà qu'un soir, par la fenêtre, la mère a vu son fils. Il n'était pas tout seul sur le pont. À côté de lui, la chevelure blonde qui était emmêlée dans la chevelure noire, et puis les deux silhouettes l'une contre l'autre. Elle a vu la petite blonde là appuyée contre son fils, et ils allaient d'un côté, et puis de l'autre, et que je t'accompagne, et que je te raccompagne. Et ça a duré un moment, puis alors que la nuit était presque tombée, ils ont échangé un baiser. Ah, la blonde s'est dégagée des bras de Vrège. Elle a disparu dans le bois. Vrège, lui, il est rentré dans la maison, l'œil brillant, affamé. Il s'est installé à table. La mère a servi la soupe. Ah, elle aimait son fils. Elle a dit « Prends bien garde, mon fils. » Lui, tout rieur, il a répondu « N'aie crainte, ma mère !» Pour eux, c'était beaucoup de mots. Le lendemain, la mère a cherché à en savoir un peu plus. Elle est allée tourner un peu dans la forêt, dans la direction que la fille avait prise la veille. Elle a trouvé une maison entourée d'une haute palissade. Et par les fentes de la clôture, la mère de Vrège a vu un jardin où la petite blonde souriait, le visage au vent. Et puis dans la maison, il y a eu une voix aiguë qui a crié « Chérie, mienne !» Et le « mienne !» ça a donné froid dans les veines de la mère de Brèche. La jeune fille, elle, aussitôt, elle a perdu l'air heureux qu'elle avait, elle s'est précipitée dans la maison. Le soir, la mère a regardé son fils. « Prends bien garde, mon fils. Ne crains-tu, ma mère. Quelques jours, quelques mois, et je t'accompagne, et je te raccompagne. » Puis un matin, la mère du garçon, en posant le bol de café devant son fils, elle lui a dit « J'ai fait un rêve cette nuit. Cette jolie-là, que t'emmènes au bois, elle attend un enfant de toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Elle le tricote dans son ventre. » Ouais, j'ai resté ahuri, le bol à mi-chemin entre sa bouche et la table. Est-ce que c'était tout ce que sa mère avait dit, la longueur du discours ou tout simplement la nouvelle qu'il rendait abasourdi ? Qu'est-ce que tu vas faire, vrai-je ? A repris la mère. Alors il a souri, mille étoiles ont brillé dans ses yeux. Ben, je vais la marier, bien sûr, ma mère. Alors va lui dire, mon fils. Alors, tout heureux, il est allé le soir, il a couru, il est allé attendre sa jolie de l'autre côté du pont. Là, il a attendu longtemps, elle n'est pas venue. Ni ce soir-là, ni les suivants, ni les jours d'après. Vrai, je ne savais pas quoi faire. Mais il savait, la jolie, elle n'avait jamais voulu lui dire où elle habitait. Mais dans le bois, les maisons, il n'y en avait pas 36. Elle a vu la maison avec la palissade. Il a appelé. « Mamie, mamie, ma jolie, mon cœur, ma vie. » Personne n'a répondu. Les volets étaient fermés. Est-ce que sa belle serait partie ? Est-ce qu'elle l'aurait laissé abandonner là ? Lui qui avait toujours le sourire, il est devenu sombre. Même qu'au village, on se disait, mais qu'est-ce qu'il a, vrai-je ? Est-ce qu'il serait malade, ou sa mère ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose ? La mère ne disait rien, puis un soir, de nouveau, elle a parlé. Elle a dit, tu sais, mon fils, j'ai fait un rêve encore. Ta jolie, là, va falloir la reprendre. Parce que sa mère, elle est en train de détricoter l'enfant. La brassière qu'elle en fait, elle n'a plus de manches et bientôt elle n'aura plus de col. Avec son aiguille, elle l'a défait. Le lendemain, quand il est rentré, sa mère, elle tricotait. Elle tricotait vite, vite, une laine rouge fine comme un zéphyr, une brassière petite mais bien faite et avec toutes les mailles qu'il fallait et sans enfiler une seule. Elle a à peine levé le nez pour lui dire « Vrai-je, c'est maintenant. » Alors lui, il s'est précipité et il a couru dans le bois et il a tourné autour de la maison et il a appelé « Mamie, ma jolie !» Et puis, comme personne répondait, il a défoncé la clôture et s'est jeté sur la porte. La porte était solide. Puis, il y a une voix qui a dit « Ma fille, elle n'est pas pour toi, je la défais de toi. » « Va-t'en, il n'y revient pas !» Lui, elle a fait tout le tour de la maison. Et les fenêtres, elles avaient des barreaux bien solides. Et il a appelé encore et encore. Il a appelé « Ma vie, ma jolie, mon alouette !» Là, il y a eu un bruit de vitre cassée. Une alouette qui a jailli du haut de la maison. Qui s'est envolé en direction de la maison de Vrège. Lui, il a couru, il a traversé le pont et quand il est arrivé à sa maison, sur l'appui de la fenêtre, il y avait une alouette toute pantelante. Il l'a pris dans ses mains bien chaudes. Il a soufflé tout doucement sur elle. Il est rentré dans la maison et sa mère, elle était juste en train de couper le fil de la brassière rouge avec ses dents. Elle a posé la brassière sur le lit et lui, Tout doucement, il a déposé l'alouette dans ce petit nid bien rouge, bien doux. Là, à peine quelques secondes plus tard, à côté de l'oiseau, il y avait un œuf, un petit œuf tout fragile. Alors la mère de Vrège a dit à son fils, « Maintenant, il faut que tu ailles finir le travail. Faut que tu ailles tuer la hyène là-bas et puis brûler sa maison. Sinon, vous ne serez jamais tranquille. » Mais il savait qu'elle avait raison. Mais il est parti, il n'a pas discuté. Et quand il est revenu, en laissant derrière lui les décombres fumants de la maison et puis la peau vide d'une hyène, sur le lit, c'est plus un oiseau qu'il a trouvé. Il a trouvé sa belle, sa jolie, avec ses cheveux blonds tout mousseux, juste l'air un peu pâle. Et dans ses bras, elle avait le petit bébé, leur bébé, emmitouflé dans la brassière rouge. Elle lui a souri et puis elle a dit merci. Merci, vrai, c'est grâce à toi, tu sais, si on est là. Parce que quand tu m'as appelé, Alouette, tu m'as donné les ailes qu'il fallait pour m'enfuir et pour te retrouver. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est fini pour ce mois-ci. Voici les références de nos contes d'aujourd'hui. Les trois vérités dans 365 contes pour tous les âges de Muriel Bloch aux éditions Gallimard Jeunesse. Et aussi dans l'aile bleue des contes aux éditions Corti, ainsi que l'histoire de l'aigle et du roi de lait. Je me suis aussi inspirée des légendes d'oiseaux de Guilhem Le Saffre aux éditions de la Chaux et Niestlé. Le Rossignol de l'Empereur de Chine fait partie des contes d'Andersen et Le Fil Rouge de Contes des femmes qui veillent de Marie Fauché aux éditions du Seuil. Je vous dis au mois prochain pour de nouvelles histoires. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Sur Radio Saint-Ferréol 94.2, le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h, avec Sophie au micro, Pierre à la technique. Thank you.